Vous écoutez, on lit pour vous.
Les effets des aliments ultra-transformés, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Est-ce que la nourriture hyper-transformée, hyper-glucidique, hyper-chimique, augmente les cas de TDAH et d'allergie chez les enfants? Demande une lectrice, Marie-France Guérin. Des études existent, indique Michèle Iskandar, chercheuse en nutrition à l'Université McGill. Mais elles sont préliminaires. Les aliments ultra-transformés ont fait la manchette à l'automne 2024 parce que Robert F. Kennedy Jr., que Donald Trump veut nommer secrétaire à la santé, souhaite les bannir des programmes d'assistance alimentaire familiaux et scolaires aux États-Unis. La consommation importante de nourriture ultra-transformée est associée aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, ainsi qu'à des problèmes allergiques comme la dermatite atopique, eczéma, et l'asthme, indique Mme Iskandar. Mais la plupart des études qui établissent ce lien n'ont pas pris en considération des facteurs importants comme le niveau d'éducation, le statut socio-économique ou des variables du style de vie, comme le temps d'écran, la qualité du sommeil, la sédentarité ou l'activité physique, tempère-t-elle. Les chercheurs emploient le terme « associé » quand ils ignorent si un facteur, dans ce cas la consommation excessive de nourriture ultra-transformée, cause un problème de santé, le TDAH par exemple, ou en augmente l'intensité. Les gens atteints d'un TDAH pourraient également être plus susceptibles de consommer beaucoup d'aliments ultra-transformés. À titre de comparaison, Mme Iskandar a effectué deux revues de la littérature sur les liens entre TDAH et aliments ultra-transformés et entre TDAH et temps passé devant un écran. La première recherche a débouché sur 17 études, la deuxième sur 208 études. Ces résultats peuvent indiquer un déficit de recherche en nutrition ou alors qu'il existe des liens plus forts entre TDAH et temps d'écran. Énergie. Pour l'heure, les recherches sur les aliments ultra-transformés n'ont pas réussi à démontrer, hors de tout doute, qu'ils posent problème en tant que tels, selon Stéphanie Chevalier, professeure et chercheuse en nutrition à l'Université McGill. Puisqu'on digère rapidement ces aliments, les gens qui en consomment beaucoup ont tendance à manger davantage. Ainsi, ils sont à tout le moins nocifs parce qu'ils portent à consommer trop de calories, ce qui mène à l'obésité. Comment définit-on un aliment ultra-transformé? Madame Chevalier mentionne l'échelle brésilienne NOVA, qui décrit 4 catégories d'aliments selon leur degré de transformation. La plupart des conserves se trouvent au niveau 3. Les aliments ultra-transformés sont au niveau 4. Selon Marion Nessel, nutritionniste émérite de l'Université de New York, si une cuisine normale ne peut pas produire un aliment, ça veut dire qu'il est ultra-transformé. Un ancien chercheur montréalais est celui qui a fait les études humaines les plus poussées au monde sur les aliments transformés. Kevin Hall, des Instituts nationaux de la santé, NIH, du gouvernement américain, a fait son doctorat à l'Université McGill. Il a suivi 20 adultes pendant 4 semaines, 24 heures sur 24, en mesurant avec une précision maniaque l'énergie qu'ils absorbaient et dépensaient, allant jusqu'à enregistrer leurs exhalations durant la nuit. Les patients devaient habiter tout ce temps dans le laboratoire métabolique des NIH. Nous avons constaté que les gens qui consomment plus d'aliments ultra-transformés ont tendance à manger davantage, à consommer plus de calories, dit M. Hall. nous faisons actuellement une autre étude pour comprendre pourquoi. En savoir plus, source Appetite. 24% proportion des calories attribuables à la consommation d'aliments ultra-transformés chez les 20% de Canadiens qui en consomment le moins. 76% proportion des calories attribuables à la consommation d'aliments ultra-transformés chez les 20% de Canadiens qui en consomment le plus. C'était « Les effets des aliments ultra-transformés », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 décembre 2024 dans la presse.
Quatre façons de s'impliquer pour le bien-être des chiens. Un texte commandité, paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Vous adorez les chiens? Vous êtes de nature généreuse? Il y a plusieurs manières de vous impliquer pour contribuer à leur bien-être et au vôtre, par extension. Voici quatre idées qui nécessitent un engagement allant de quelques heures à quelques années pour faire une différence dans les vies de ces bêtes attachantes. Devenir famille d'accueil. Les refuges peuvent être un endroit anxiogène pour les animaux en raison des bruits, des odeurs et du va-et-vient. Offrir un foyer temporaire à un chien lui permet de retrouver quiétude et affection, tout en favorisant sa socialisation. Cela contribue d'ailleurs à ce que son adoption se passe mieux par la suite. Les organismes couvrent généralement les frais essentiels au bien-être des animaux, laissant les familles se concentrer sur ce qui compte le plus, offrir aux chiens amour et stabilité. Partout au Québec, des associations cherchent activement des familles prêtes à illuminer la vie de ces animaux en transition. D'autres types d'organismes peuvent également avoir besoin de familles d'accueil. C'est le cas de Mira, par exemple, qui a pour mission d'entraîner des chiens guides ou des chiens d'assistance destinés à des personnes vivant avec un handicap. Les familles d'accueil associées à Mira jouent un rôle crucial en prenant soin de chiots pour une période qui peut durer jusqu'à 18 mois, durant laquelle ces petites boules de poils doivent socialiser et apprendre les bases de la vie quotidienne. Faire du bénévolat dans un refuge. Les refuges pour chiens font de petits miracles avec très peu de moyens. Ils dépendent donc énormément des bénévoles pour leurs activités. Un don de quelques heures de votre temps par mois suffit pour améliorer la qualité de vie des pensionnaires et faire une différence. Emmener les chiens en promenade, assurer leur transport chez le vétérinaire ou encore nettoyer leurs espaces sont autant de tâches essentielles pour leur venir en aide. Pour les personnes les plus motivées, devenir éducateur ou éducatrice bénévole permet de transmettre aux chiens en refuge des bases en dressage et en socialisation, favorisant ainsi leurs chances d'adoption par une nouvelle famille. Organiser une campagne de financement. Faites briller vos talents en soutenant une cause noble. Il existe plusieurs façons de proposer votre expertise pour mener à bien une levée de fonds pour un organisme ou un refuge. Aider sur le terrain lors d'événements, proposer un soutien administratif, créer le design graphique de la campagne ou mobiliser vos proches et les entreprises locales pour collecter des fonds en sont quelques exemples. Chaque geste contribuera directement ou indirectement à amasser les sous nécessaires pour couvrir les soins vétérinaires, l'achat de matériel et les frais de fonctionnement d'un organisme. Adopter un chien âgé. Adopter un toutou d'âge adulte, c'est un geste d'une grande générosité qui a le potentiel de changer le cours de votre vie, comme celui de votre futur compagnon. Les chiens d'âge mûr, parfois laissés pour compte à la faveur de chiots, sont souvent déjà bien dressés, autonomes et prêts à donner de l'affection sans compter. Pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec les chiens, il peut s'agir en outre d'une excellente façon d'apprendre à s'occuper d'un animal sans tous les défis que pose le dressage d'un jeune animal. C'était « Quatre façons de s'impliquer pour le bien-être des chiens », un texte commandité paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Il était une fois le web 2.0. Un texte de Brian Miles, paru le 27 décembre 2024 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000, l'équipe éditorialiste du Devoir vous propose un regard à la fois caustique et porteur d'espoir, dans la mesure du possible, sur les grands événements et tendances qui ont façonné ce premier quart de siècle. Aujourd'hui, le Web 2.0. À l'aube du millénaire, pour reprendre l'insupportable cliché qui circula à outrance en 1999, il s'est répandu à travers le monde une nouvelle annonciatrice de l'ère des fausses nouvelles en rétrospective. Le bug de l'an 2000 allait foutre en l'air l'architecture de la société numérique. Tout cela parce que les ordinateurs, formatés pour employer seulement les deux derniers chiffres d'une année, allaient interpréter l'arrivée de l'an 2000 comme le retour à 1900. Un peu plus, et les avions allaient s'immobiliser en plein ciel. Oups! Ce mythe-là, il faudra attendre que les médias sociaux amorcent leur phase supernova pour le voir apparaître dans l'orbite contemporaine de la galaxie du complot. Le bug de l'an 2000 a causé des maux de tête, des craintes et de nombreuses mises à jour de systèmes dont le coût fut astronomique, mais la planète numérique a continué de tourner autour de l'axe de la Silicon Valley. L'acte fondateur du premier quart de siècle demeure, sans contredit, l'éclatement de la bulle des technos sur les bourses nord-américaines. En mars 2000, c'est le crash. Des joyaux de l'époque ne s'en remettront jamais et les investisseurs resteront marqués au fer rouge pendant la décennie à venir. L'éclatement de la bulle des technos coïncide à quelques années près avec l'émergence du fameux Web 2.0, porté par le partage et la co-création des contenus. La première décennie du 21e siècle est marquée par une formidable renaissance de la grappe des technos, comme en atteste l'émergence de l'iPod 2001, Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, l'iPhone 2007, WhatsApp 2009, Instagram 2010. Internet, dans les années 1990, était la combinaison d'un vaste chatroom plus ou moins intéressant et d'une librairie virtuelle qu'une entreprise naissante cataloguait avec un succès remarquable pour l'avancement du savoir, tout en promettant de ne jamais vendre de la publicité. Google aura changé d'avis en cours de route pour devenir, avec FaceMash, dit Facebook, dit Meta, l'une des plus grandes régies publicitaires de l'histoire de l'humanité. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAM et autres champions du commerce numérique, ont atteint le statut de proto-État presque intouchable, bénéficiant de la naïveté des législateurs à travers le monde et d'une interprétation très laxiste du concept de neutralité du net, pour se délester de leurs responsabilités sociales quant au partage des contenus et pour accumuler les masses de données qui ont fait leur fortune. C'est le monde virtuel que nous avons choisi d'habiter, pour le meilleur et pour le pire. Les plateformes offrent une expérience usagée irréprochable. Elles nous offrent l'illusion de la gratuité en échange de l'abandon de nos données personnelles. Elles permettent de créer, partager, voire rentabiliser par soi-même des contenus. Les médias sociaux ont changé notre rapport au monde, au groupe et à l'individualité. D'un balayage du doigt, elles ont rendu possible notre insertion dans des communautés transnationales partageant des intérêts ou des valeurs par-delà les frontières. Cette segmentation, riche en expériences humaines, possède aussi une valeur de ciblage publicitaire que les plateformes ont su exploiter mieux que quiconque. Elle est aussi à la racine des chambres d'écho et des bulles de filtre, un concept inventé par Élie Parisser, dans lesquels il est, hélas, possible de se réfugier jusqu'aux extrêmes du spectre idéologique, des croyances et des fabulations. Cette architecture connaît des signes d'érosion. Les préjudices associés aux réseaux sociaux et leurs effets sur l'estime de soi des adolescents, en particulier des filles, la dégringolade de plateformes autrefois respectables telles que X dans les entrailles de la vérité alternative et la méchanceté brutale des interactions sur les réseaux sociaux ternissent la qualité de l'expérience. Récemment, nous avons franchi le Rubicon de l'indécence et de l'immoralité alors que des utilisateurs se sont réjouis du meurtre du PDG d'une compagnie d'assurance américaine, Brian Thompson, sous prétexte de la cupidité de ces entreprises. Intouchables, les géants du numérique? Plus vraiment. Le web, propulsé par l'intelligence artificielle, est annonciateur de nouveaux bouleversements dont les géants du premier quart du siècle ne se remettront pas tous. Partout dans le monde, les États démocratiques se réveillent enfin. Ils légifèrent pour encadrer les plateformes et exiger un meilleur partage des revenus avec les médias qui ont souffert de la concurrence publicitaire, parfois jusqu'au point de rupture. Ils s'attaquent aussi au monopole des plateformes, comme en font foi les poursuites antitrust contre Google et Meta. Les démarches sont fort avancées aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, alors qu'elles sont encore embryonnaires au Canada. Il y a dans l'air un je ne sais quoi annonciateur d'un nouvel éclatement et d'un recommencement qui nous mènera en 2050. Au prochain bilan, espérons que nos pratiques numériques auront été plus émancipatrices que commerciales et surtout plus respectueuses de la dignité humaine. On peut toujours rêver. C'était « Il était une fois, le Web 2.0 », un texte de Brian Miles, paru le 27 décembre 2024 dans Le Devoir.
Quel avenir pour la forêt publique? Un texte de Charles Le Cavalier, paru le 13 décembre 2024 dans La Presse. Un débat fait rage sur l'avenir de la forêt québécoise, qui recouvre près de 50% du territoire de la province. Quelle place fera-t-on à l'industrie, aux caribous et aux aires protégées? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'industrie est en crise, on attend un plan rapidement. La presse a suivi la ministre Maïté Blanchette-Vézina, venue y vendre sa réforme. Un dossier de Charles Le Cavalier. Des zones d'exploitation forestière intensive, Saint-Félicien, Machteuillatch et Saguenay. Au bord du boulevard Talbot, attablé dans un salon privé du Normandin, la ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, présente son projet de réforme à quelques préfets. Il y a de l'impatience dans l'air. Je l'ai dit, je le dis à mes équipes, c'est pour hier, dit la ministre, pour rassurer les élus locaux. J'ai regardé hier, et ce n'était pas sorti, relance du tac au tac, le préfet de la MRC du domaine du Roi, Yannick Baillargeon. Il rigole en lançant sa remarque, mais l'organisation qu'il représente, Alliance Forêt Boréale, tape du pied. Le projet de Mme Blanchette-Vézina est d'adopter, à grande échelle, une nouvelle façon de faire de la foresterie. Concentrer l'activité industrielle sur une plus petite partie du territoire, une zone prioritaire de production de bois, déléguer la gestion du reboisement aux entreprises et laisser aux forestiers en chef du Québec et à ses délégués régionaux le soin de choisir quels secteurs seront consacrés à l'exploitation intensive. Les détails ne sont pas ficelés, mais un projet de loi est prévu pour le printemps 2025. Les municipalités, elles, souhaiteraient prendre part aux décisions. C'est notre responsabilité d'aménager le territoire, affirme Luc Simard, préfet de la MRC Maria Chapdelaine. La ministre réplique qu'avec des élections municipales tous les 4 ans, ça serait trop imprévisible. Une MRC pourrait décider d'interdire l'abattage d'arbres, par exemple. La forêt publique appartient à tout le monde, fait-elle valoir. Mais au-delà de certains désaccords, ils s'entendent pour dire que le statu quo est intenable. Crise. L'industrie forestière est en crise. Elle est menacée par la guerre commerciale avec les États-Unis, subit les contre-coups des incendies de forêt historiques de 2023 et craint d'avoir accès à moins de bois avec l'adoption de mesures pour protéger le caribou forestier ou pour protéger 30% du territoire du Québec. Cette urgence, on l'entend peu dans les grandes villes. Mais dans des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les pertes d'emplois s'additionnent. Les syndicats estiment que 30 000 travailleurs ont perdu leur emploi depuis 20 ans. Une usine qui ferme, c'est souvent un paquet de petits entrepreneurs tout autour qui perdent également leur travail, fait valoir M. Baillargeon. La ministre Maïté Blanchette-Vézina n'est pas la plus sollicitée par les médias de la colline parlementaire. En 2024, elle a fait adopter un projet de loi sur les mines sans trop de controverses. Mais lorsqu'elle met les pieds dans une région forestière, elle attire l'attention. Au matin, elle est à Saint-Félicien pour annoncer une aide économique à des projets pour mettre en valeur la biomasse forestière. En mêlée de presse, un journaliste lui fait remarquer que les environnementalistes, les Premières Nations et les syndicats critiquent sa tournée de consultation menée à huis clos et ce qu'elle propose. Mais Maïté Blanchette-Vézina en est certaine. Un nouveau régime forestier basé sur la culture en triade est la façon de conjuguer la protection du caribou forestier, la création d'aires protégées, la capacité du Québec à produire davantage de bois destiné à l'industrie forestière, qui doit aussi se moderniser, explique-t-elle à la presse en entrevue. Produire plus avec moins de territoire. Elle s'appuie sur les travaux de Christian Messier, professeur à l'UQAM et chercheur réputé dans le domaine de la forêt, qui a mené un projet pilote en Mauricie durant les années 2010. Le concept? Séparer la forêt en 3 zones. Des aires protégées, une forêt à usage mixte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, une zone où on fait de la culture intensive. Dans le cadre de ce projet pilote, 15% du territoire était ainsi en culture intensive. À quoi cette forêt peut-elle ressembler? Au pire comme au meilleur, résume M. Messier. Traditionnellement, il s'agit d'une monoculture où toutes les espèces, sauf celles qu'on veut récolter, sont éliminées. Mais aujourd'hui, on sait qu'en diversifiant les plantations, on améliore la récolte et on rend la forêt plus résiliente à la maladie, explique-t-il. Il reconnaît toutefois que cette vision ne fait pas consensus et que certains de ses collègues craignent la culture intensive. Mais celle-ci, fait-il valoir, peut produire jusqu'à 4 fois plus de bois par hectare que la forêt à l'état naturel. Cela viendrait donc réduire la pression sur le reste du territoire, notamment pour atteindre la cible de 30% d'air protégé d'ici 2030, dit la ministre Maïté Blanchette-Vézina, qui a rencontré M. Messier à de nombreuses reprises au cours de la dernière année. La réforme ne plaît pas à tous. Les syndicats estime que le gouvernement Legault doit en faire davantage pour que l'industrie forestière quitte le créneau du papier et des 2x4, affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, qui représente notamment des travailleurs du géant du bois d'Ometar. Le point de vue des Premières Nations. Et du côté des Premières Nations, les critiques fusent de toutes parts. Radio-Canada rapportait la semaine dernière qu'une lettre signée par plusieurs nations autochtones déplorait la vision biaisée de Mme Blanchette Vézina au profit de l'industrie. À Mashteuiatch, communauté Innue située sur les rives du lac Saint-Jean, non loin de Roberval, le vice-chef Jonathan Gilvero affirme que le gouvernement Legault n'a pas respecté son obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations. S'il tente d'imposer des zones forestières intensives sur son territoire, il s'exposera à des poursuites. Mais il n'a pas signé la lettre. On n'est pas contre l'industrie. On vit entouré de gens qui dépendent de l'industrie. On a des familles ici qui en vivent, des centaines de travailleurs. On est solidaire des villages quand une scierie ferme. Mais ça prend un équilibre. Si dans la région on continue de prélever la forêt à ce niveau-là, on va frapper un mur dans 15-20 ans, laisse-t-il tomber. M. Gilles Verreau a 30 ans. Il est trop jeune pour avoir chassé le caribou sur son territoire, alors qu'un moratoire sur la chasse de cet animal sacré pour les Innus a été décrété depuis près de 20 ans par sa communauté en raison du déclin de l'espèce. Cela a un impact pour la transmission de la culture, même si une entente a été tissée avec les Cris. Ce n'est pas un sacrifice tant qu'à nous de protéger le caribou. Si on exploite l'entièreté de notre territoire, c'est toute la biodiversité qui risque de dépérir. Et ce n'est pas à cause du caribou que l'industrie est en difficulté, souligne-t-il. Mais la ministre Maïté Blanchette Vézina croit en son plan. Le nouveau régime forestier va permettre de protéger plus de territoires au bénéfice du caribou forestier et d'autres usagers de la forêt. Et la tempête parfaite que traverse l'industrie permettra, croit-elle, une diversification des marchés. Elle sent qu'un point de bascule va être atteint. Et le Québec devra se tourner massivement vers les infrastructures industrielles en bois pour créer un marché intérieur. C'était « Quel avenir pour la forêt publique ?» un texte de Charles Lecavalier, paru le 13 décembre 2024 dans la presse.